Salam alaikum, my sweet sister. Bienvenue dans A Cup of Teen Money, le podcast des femmes musulmanes qui aspirent à une vie épanouie ici-bas et dans l'au-delà. Moi, c'est Kounadi, la fondatrice de Budget Éthique Femmes, où nous accompagnons et conseillons des sweet sisters dans la gestion de leurs finances personnelles ou professionnelles en respectant l'éthique musulmane et en tenant compte de leurs aspirations profondes. Ici, nous sommes entre nous et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très délicat. Il s'agit des relations toxiques. Avoir une vie épanouie ici-bas passe également par les relations que nous entretenons avec les personnes qui nous entourent, que ce soit les parents, les frères et sœurs, le conjoint, les enfants, les amis, les voisins, les collègues de travail, et j'en passe. Je pense que tu seras d'accord avec moi lorsque je dis qu'il est important d'avoir des relations saines avec notre entourage pour avoir une certaine sérénité dans son quotidien. Certes, nous pouvons toujours faire face à des conflits par manque de vision commune, de compatibilité, de communication, etc. Mais lorsque vous luttez constamment, continuellement contre une personne, là, il va falloir commencer à se poser des questions. J'ai tenu à aborder ce thème car les termes « personne toxique », « pervers narcissique », « manipulateur » sont des choses qui reviennent souvent sur la toile. Et pour moi, il est important qu'on puisse vraiment faire la différence entre une personne qui est réellement toxique, et donc là, il y a un réel danger, et une personne qui est tout simplement incompatible avec nous, et auquel cas, il sera plus facile de prendre ses distances. Comme toujours, j'aime être la plus pertinente possible et n'oublier aucun détail. Donc, quoi de mieux que d'inviter une sister qui a été une survivante d'une relation toxique et qui aujourd'hui offre son aide aux victimes de relations toxiques. Cet épisode s'adresse vraiment à vous toutes mes sisters. Que vous soyez une victime, un témoin ou juste comme moi, si vous voulez pouvoir repérer ce genre de personne et vous en préserver et ne pas rentrer dans une paranoïa dès qu'une des relations qu'on entretient se passe mal. Exceptionnellement, ce thème sera abordé sur 2 épisodes, car avec notre sister, nous avons tenu à ne rien négliger. Je te laisse donc t'installer confortablement pour cette première partie avec une tasse de thé ou de café, un bon morceau de gâteau et prends note de notre échange. Salam alaikum, Mashta, j'espère que tu vas bien.
Alaikum salam, rahmatullah. Je vais très bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée.
Merci à toi pour ta présence. Et surtout qu'on a eu vraiment, vraiment du mal à trouver un créneau disponible pour toutes les deux. Donc vraiment merci de prendre le temps de faire ce podcast avec moi et de t'adapter aussi au décalage horaire.
Oui, avec grand plaisir.
Ouais, alhamdoulilah. Donc, avant de commencer, on va quand même te laisser te présenter. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus sur toi.
Très bien. Alors, moi, c'est Majda. Je suis survivante d'une relation toxique et maman de 2 enfants, alhamdoulilah. J'ai fondé Stop Violence and Thrive, qui veut littéralement dire en français, dis non à la violence et épanouis-toi, où j'accompagne les femmes, notamment les femmes musulmanes, à se sortir de l'emprise des relations toxiques et à s'épanouir. J'ai été auparavant intervenante auprès d'un organisme au Canada qui s'occupe des femmes musulmanes et des enfants qui fuient les violences domestiques de tout genre, mais aussi les femmes qui vivent dans la précarité. Donc, mon travail consistait à sélectionner les femmes qui nous contactaient en détectant le type d'abus subis et surtout sa dangerosité, puis les aider dans l'établissement d'un plan de sortie sécurisé et les accompagner une fois au refuge. Les accompagner dans tous les aspects de l'accompagnement, notamment l'aspect coaching. Donc les femmes, elles ressortaient après autonomes, elles pouvaient continuer leur vie après ce court passage au refuge. Il y avait de très très belles histoires, de très très belles réussites de femmes aussi, dont je suis vraiment fière. Voilà, et je suis toujours bénévole dans cette organisation. L'organisation, elle s'appelle Nisa Homes, si vous voulez faire un tour sur leur site.
D'accord. Et est-ce que du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier actuel, donc avec Stop Violence and Thrive?
Alors, actuellement, j'accompagne les femmes francophones, musulmanes, qui vivent dans les relations toxiques ou qui sont sorties d'une relation toxique. Je les accompagne à cheminer de là où elles sont actuellement vers l'épanouissement personnel et spirituel. Mon approche est plutôt, je le dis toujours, stratégique et pratique. Je leur apprends à mettre fin à l'emprise et à bien agir face aux agressions des personnes toxiques autour d'elles, pendant et après les relations toxiques. Je les accompagne aussi à se réparer intérieurement après une telle épreuve parce que ce n'est pas facile, il faut le dire. Et je fais beaucoup de sensibilisation à travers mes réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Il y a aussi prochainement mon blog, donc qui sortira le 15 mai, Inch'Allah, où il y aura plein, plein d'articles qui vont aider. J'ai aussi d'autres projets d'écriture, mais c'est un peu loin. Inch'Allah, j'espère pouvoir les concrétiser. Voilà.
Ah oui, on peut le souhaiter en tout cas parce que c'est bah, ce que tu fais, c'est vraiment nécessaire en tout cas pour la communauté, pour les personnes qui sont victimes de relations toxiques. Donc vraiment, je te souhaite de pouvoir concrétiser tout ça, Inch'Allah.
Merci.
Du coup, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer dans ce domaine qui est quand même bien particulier?
Alors, ce domaine-là, c'est parti de mon expérience personnelle.
D'accord.
J'ai toujours eu envie d'aider les femmes. Je ne sais pas pourquoi, depuis très très longtemps en fait, même après mon expérience, même avant mon expérience. Après ça, je me suis dit, c'est quand j'ai évolué, parce que c'est passé quand même par plusieurs années d'introspection, de recherche, ce n'était pas facile aussi, mon parcours personnel. Et donc, quand je suis arrivée vraiment à l'épanouissement, entre parenthèses, quand je vous dis épanouissement, ça ne veut pas dire que tout va bien pour moi. C'est très important. Donc, l'épanouissement, c'est-à-dire que vous allez arriver à un certain stade où vous allez vous connaître et donc vivre mieux. Mais ça ne veut pas dire que vous allez devenir parfaite, bien sûr. Alors, je me suis dit qu'il faut que je partage ça. Je ne peux pas continuer comme si de rien n'était. Et vraiment, j'ai ressenti comme un appel au fond de moi, que je devais faire quelque chose pour les femmes en général. Et les femmes musulmanes en particulier. C'est vrai que je fais beaucoup pour les femmes en général, pas que musulmanes, mais les femmes musulmanes, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits. On cache en fait l'information ou bien on la dévie sur ça. C'est tabou, on n'ose pas en parler. Il y a aussi pour les femmes francophones la barrière de la langue parce que c'est vrai que du côté anglophone, on est vraiment très loin sur tout ce qui est recherche, etc. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui restent à faire sur le terrain, mais c'est vrai qu'il y a des fois la barrière de la langue. Donc, j'essaye de transmettre tout ce que j'ai appris à ces femmes-là. Et vraiment, cet appel, si tu veux, c'est ce qui m'anime tous les jours. Même quand c'est difficile, je continue encore parce que je me dis qu'il peut y avoir une certaine Majda qui nous écoute en ce moment. Et qui cherche de l'aide et qui ne sait pas par où commencer, où aller, à qui parler. Et je veux qu'elle sache que l'aide existe, qu'il faut qu'elle en parle. Voilà.
D'accord. Et du coup, quand tu nous as dit que ça part aussi de ton expérience personnelle, donc ça veut dire que toi aussi, tu as vécu une relation toxique?
Oui, effectivement. Oui.
D'accord.
Et je pense que il y a eu récemment une étude qui disait que au moins une femme sur trois a vécu une relation toxique. Donc, elle peut être dans tous les niveaux, elle peut être professionnelle, amicale, familiale, conjugale, mais ça dépend en fait du degré et de l'implication que vous avez dans cette relation. Finalement, les relations toxiques ne sont pas aussi rares que ça.
D'accord. Donc là, moi, avant qu'on aille un peu plus loin, merci pour cette présentation et ces petites explications. Avant qu'on aille plus loin, j'aimerais que tu puisses nous dire, en tout cas nous permettre de comprendre, parce que de nos jours, on entend beaucoup le mot, voilà, relation toxique, pervers narcissique, etc. Et on a tendance peut-être à catégoriser les gens très rapidement dans cette case-là, on va dire. Et moi, je pense qu'il est d'abord aussi important de faire une différence entre vraiment une personne toxique et une personne qui ne nous correspond pas tout simplement, mais ça ne veut pas dire forcément que cette personne-là est toxique. Ça veut dire qu'elle pourrait aussi bien matcher avec une autre personne en tant que couple ou en amitié, etc. Donc, comment tu pourrais nous aider, en tout cas en tant que personne, là, nous expliquer comment on peut faire cette différence entre une personne qui est réellement toxique et une personne qui ne nous correspond pas tout simplement parce que, voilà, on n'a pas d'affinité, quoi.
Alors, c'est vraiment une très, très bonne question parce que c'est de là où tout commence. En fait, la majorité des questions que j'ai, c'est comment savoir si je suis dans une relation toxique ou pas. Pour te dire que même si la femme qui est dans cette relation sait qu'il y a quelque chose qui tourne mal, généralement, et parce que, comme je t'ai dit, l'information, elle n'est pas vraiment concrètement disponible. On va toujours lui dire que non, c'est peut-être une question de compatibilité et un manque de communication, donc on est en train de chaque fois de lui dire non, 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 n'y pense même pas. Ne joue pas le rôle de la victime, c'est pas bien, etc. Et moi, je suis là pour lui dire que, en fait, c'est vrai que le terme toxique, C'est très important parce que j'y pensais la dernière fois. Il y a peut-être un problème, pas un problème, petit souci de terminologie. Il y a beaucoup de coachs, de thérapeutes, etc., qui parlent de toxique, toi aussi tu peux être toxique, etc. Et je suis d'accord. OK? Sur le principe, je suis d'accord. Il y a ce qu'on appelle le comportement toxique, c'est-à-dire que oui, moi, par exemple, je peux être négative, je peux être, j'ai beaucoup de défauts, je ne suis pas parfaite, et des fois, je suis dans une relation, je peux être toxique avec ma meilleure amie, je peux être dans le sens où je déstabilise la relation. Donc ça, c'est un comportement toxique. Par exemple, si mon ami vient me dire, OK, Majda, je vois que tu es négative. Chaque fois que je te propose quelque chose, tu es toujours en train de trouver les points négatifs, etc. Et on ne peut plus rien, par exemple, programmer avec toi. C'est un exemple, hein, ce n'est pas moi. Mais pour vous dire. Alors, si elle me dit ça et que je lui dis, ah, OK, je suis désolée, oui, c'est vrai, il y a une prise de conscience de ma part, c'est que je ne suis pas une personne toxique. C'est-à-dire que j'ai un comportement toxique à un moment donné, mais je ne suis pas une personne toxique. Ce comportement toxique, il résulte de peut-être que j'ai des traumatismes, peut-être que j'ai un problème, peut-être que je sais mal gérer, peut-être que j'ai besoin d'apprendre des compétences, etc. Mais la personne toxique dont je parle moi et dont parlent les experts, c'est vraiment des personnalités précises. Ces personnalités, je ne sais pas si on aura le temps de vraiment aller en profondeur, tout ce qui est narcissique, etc. Parce que la personne toxique n'est pas que le narcissique. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup d'autres personnalités qui sont véritablement toxiques. Alors, je mets juste un distinguo ici très rapide par rapport à la compatibilité pour qu'on puisse finir avec ce sujet-là. Il y a une différence entre dispute en couple, je suis malheureuse dans mon couple, etc., quand il n'y a pas un épanouissement dans le couple. Ça, je peux vous dire que si j'ai une femme qui me dit, voilà, je ne me sens pas bien dans mon couple, je me dispute et que je commence à savoir comment ça se passe, etc., je peux distinguer clairement une dynamique de deux personnes, soit qui sont incompatibles, soit qui sont compatibles et qui passent par une phase qui est difficile dans leur couple, etc. Pourquoi? Parce que premièrement, je ne vois pas un cycle. Deuxièmement, je ne vois pas une emprise, c'est-à-dire un rapport de contrôle. Un rapport déstabilisant entre une partie dominante et une partie dominée, et c'est ce qui caractérise clairement la relation toxique, et un rapport de culpabilité, c'est-à-dire, oui, un couple va peut-être se disputer, il va y avoir manque de communication, etc., mais on va voir si vous voulez, le pourquoi de ça. Et c'est le pourquoi de ça qui va déterminer si on est incompatible ou pas. Alors, je vous donne un petit exemple rapidement. Par exemple, quelqu'un qui me disait, voilà, je pense que je suis dans une relation toxique. Je commence à un peu lui poser des questions, comment ça se passe? Et elle me dit, en fait, lui, il aime plutôt sortir. Moi, j'aime plutôt être dans la maison. Lui, il aime plutôt ramener sa famille, ses amis. Moi, j'aime pas trop recevoir les gens, tu vois? Et elle me dit, quand on se dispute toujours par rapport à ça, par exemple, quand il se dispute avec moi, il me parle plus, il veut plus me parler, etc. Et je suis en train de lui dire, est-ce que tu as essayé de lui parler, de lui dire, voilà, moi, par exemple, je suis introvertie, je n'aime pas qu'il y ait beaucoup de monde à la maison. Elle m'a dit, non, en fait, parce que chaque fois que j'essaye de lui parler, il me dit, non, non, je veux plus te parler, je veux plus te parler, c'est des disputes. Et je suis en train d'attendre, je lui dis, OK, comment votre relation a commencé? Elle m'a dit, non, elle a commencé tout à fait normalement, elle me raconte, etc. Et là, je suis en train de lui dire, pourquoi tu as dit que c'est toxique? Elle me dit, parce que j'ai vu un post me disant que quelqu'un qui ne respecte pas ton choix ne te respecte pas, et donc c'est forcément quelqu'un de toxique. Donc ça, c'est des fausses informations. Ce que je veux vous dire, je ne parle pas de ça. Ça, c'est, il faut faire une thérapie de couple. Ça peut être des malentendus, c'est quand même deux personnalités
Ouais, complètement opposé, quoi.
complètement opposées. Des fois, ça marche, des fois, non. Des fois, ça marche très bien. Des fois, il y a des compromis à faire. Par exemple, moi, ma femme, elle est introvertie, elle n'aime pas qu'on sort, etc. Ben, je vais sortir avec mes amis. Je ne sais pas, il y a des solutions à trouver. Ce n'est pas mon domaine. Je pense que toxique, c'est un peu Tout le monde le dit, mais tout le monde ne sait pas ce que c'est.
C'est
Et
ça,
c'est
exactement.
dommage qu'il y a beaucoup de personnes qui s'approprient ce côté-là. Et je trouve encore dommage qu'il y a des thérapeutes qui ne vont pas au plus profond de ces relations et qui n'étudient pas ces relations concrètement. Pour revenir à la relation toxique, la véritable relation toxique, c'est vraiment une relation qui est à l'opposé de la relation saine. La relation toxique est basée sur le contrôle et la domination. La relation toxique est basée sur la volonté de faire du mal à l'autre. Il faut le dire clairement. La personne toxique, c'est une personne qui est consciente de ses actes, du début jusqu'à la fin. C'est pas une personne, parce que je parle beaucoup de mythes autour des personnes toxiques et autour des narcissiques. On dit beaucoup, non, mais parce que lui, il a eu une enfance difficile, parce que lui, il a eu une ex difficile, etc. Non. Sachez que les personnes toxiques n'ont aucune espèce d'empathie avec personne. C'est des personnes qui savent qu'ils vous font du mal et qui sont conscients quand ils vous font du mal. Et c'est là le point qui distingue vraiment le manque de compatibilité à la personne toxique. Quand il y a un manque de compatibilité, forcément, il va y avoir des confrontations, comme je l'ai dit, des valeurs, des envies, de notre vision de vie, etc. Mais, et c'est là le plus important, il n'y a aucune volonté consciente et manifeste de vous faire du mal. Ce qui est vraiment le cas dans une relation toxique. La personne toxique, comme je l'ai dit, elle est consciente du début jusqu'à la fin. Et encore une fois, c'est quand les femmes apprennent que la personne toxique et que leur partenaire toxique et la famille toxique, quand ils apprennent qu'il y a cette préméditation, si vous voulez, c'est comme si quelque chose se déclenche en elles, qu'elles commencent à se dire, OK, donc moi j'étais vraiment à 100% dans cette relation, mais apparemment c'est pas la même chose, etc. Et les personnes toxiques, c'est des personnes qui se nourrissent de votre souffrance. C'est des personnes qui ont un vide intérieur au fond d'eux. C'est des personnes qui n'arrivent pas à combler ce vide autrement que par sentir le contrôle sur vous. Cette personne peut vous dominer. Encore une fois, la victime, je ne dis pas que la victime, elle est parfaite. OK? Comme j'ai dit, elle a ses défauts, on a tous nos défauts, on n'est pas parfait. Mais forcément, dans la victime d'un prédateur toxique, son fond est bon. Il y a quelque chose de bon. Et c'est des personnes qui savent détecter ces. Les personnes toxiques savent détecter les proies. Et principalement, comme je l'ai dit, ce type de relation est cyclique, c'est-à-dire qu'il suit un cycle précis. Le cycle précis, ça, c'est les bons jours et les mauvais jours, les bons moments et les mauvais moments. Ce cycle est composé de 3 à 4 étapes que j'explique longuement dans mes vidéos, mais pour aller vraiment rapidement, vous avez l'étape d'idéalisation ou bien ce qu'on appelle le love bombing, c'est-à-dire où là, surtout dans la période, dans la relation conjugale ou bien amicale, nouvelle relation, c'est vraiment la personne parfaite. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les histoires. C'est la personne qui va calquer ce qu'on appelle mirroring, c'est-à-dire créer un effet miroir sur votre personnalité, qui va calquer ce que vous voulez voir chez l'autre personne. C'est pour ça que vous allez tomber dans ce piège. Et n'importe quelle personne peut tomber. Il ne faut pas se dire que les victimes, c'est des femmes faibles, et cervelées ou quelque chose comme ça. Vous avez des femmes fortes, très intelligentes et qui tombent chaque jour dans les pièges de la personne toxique. Après, dès que vous êtes dans le piège, dès qu'il resserre l'étau autour de vous, eh ben, c'est la descente aux enfers et ça va faire très mal. C'est la période de dévaluation ou bien de dévalorisation. Les disputes, bon, ça dépend des types de violence, mais les disputes, les humiliations, les coups, etc. Après, quand vous décidez, par exemple, si vous décidez de partir, il va se transformer, le pardon. Vous savez, oh, j'ai changé, je vais changer, je vais suivre une thérapie, etc. Si vous décidez de rester, ça va être la période de rejet. La période de rejet, c'est-à-dire il va plus vouloir vous parler dans toutes les relations. Je dis il, hein, mais ça peut être aussi une femme. C'est-à-dire il va vous ignorer. Parce que pourquoi il va créer chez vous une sorte d'addiction? Vous allez vouloir lui parler, ça va être très dur pour vous de le voir vous ignorer, etc. Si vous décidez de partir, très bien, il va revenir, bien sûr, si vous partez, il va y avoir la quatrième étape qui est l'aspiration. Et c'est en anglais le hoovering, ça vient du hoover, l'aspirateur. L'aspiration, les SMS, les mots gentils, etc. Tout le temps, toute votre vie, ça va être comme ça avec cette personne. C'est les montagnes russes, carrément les montagnes russes. Vous ne savez jamais quand est-ce que ça va éclater, quand est-ce que ça va être bien, etc. Vous êtes toujours en train de marcher sur des œufs, d'essayer d'anticiper comment c'est difficile d'anticiper, d'essayer d'anticiper comment il va réagir à ça. Donc, c'est une relation où vous êtes mal à l'aise. Vous êtes mal à l'aise, quoi que vous fassiez, hein, quoi que vous fassiez. Et vous allez forcément vous oublier parce que vous allez essayer maintenant de calquer ce qu'il aime et ça ne sera jamais suffisant. Donc, vous voyez, ce n'est pas une sorte de compatibilité. La compatibilité, c'est vous faites des efforts, ça ne marche pas, et bien à un certain moment, vous arrivez à communiquer avec la personne, soit vous vous séparez, soit vous suivez une thérapie, très bien, vous restez, vous changez. Mais là, la communication, elle est impossible avec la personne toxique. Elle est impossible parce que il y a une. Déjà, c'est une personne qui ne reconnaît jamais ses torts. Et deuxièmement, c'est une personne manipulatrice qui va toujours rejeter la faute sur vous. Toujours rejeter la faute sur vous. Donc, il n'y a pas de communication. Il n'y a aucun moyen de communication, ni entre vous deux, ni à l'aide d'un thérapeute. Voilà. Donc, retenez domination, contrôle, peur, culpabilité et déséquilibre.
Ok, bah super, merci beaucoup pour ça parce que je pense que c'est très très important de pouvoir faire la différence hein, entre les deux et pour qu'on puisse vraiment après comprendre la suite de ce que tu vas nous expliquer. Donc là, tu nous as donné quelques exemples et est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les différents types de violences en fait qu'on peut vivre dans une relation toxique?
Comme je l'avais dit en premier, la femme se retrouve entre cette fausse conception de violence conjugale. Ce n'est que des femmes qui ont des bleus, ce n'est que des femmes qui ont des coups apparents, etc. Ce n'est que des femmes qui sont battues. Donc la violence physique, et la violence physique, c'est déjà le premier type de violence, c'est les coups, les blessures, les tortures physiques, les gifles, les secousses, pousser, étrangler, même torturer ton animal de compagnie. Donc tout ça, c'est considéré comme violence physique. Ça, tout le monde le sait. Okay? Pour vous, relation toxique, ça veut dire violence physique. Mais, comme je le dis souvent, les personnes toxiques sont très maniées. C'est des personnes qui sont très maniées et très intelligentes. Donc, elles s'adaptent très bien à la société où elles vivent. Les abuseurs de tout genre savent que des coups peuvent se faire remarquer et que c'est répréhensible. Donc, il y a des abuseurs qui, les coups, ce n'est pas leur façon de faire. Ils vont essayer de se retenir. Mais, puisqu'ils aiment créer le chaos autour d'eux, ils aiment les problèmes, ils vont utiliser d'autres types de violences. Le deuxième type de violence, c'est la violence émotionnelle ou psychologique. Alors, c'est la violence la plus utilisée par les abuseurs. Ce type de violence peut être utilisé seul ou accompagner la violence physique ou la violence, d'autres types de violences qu'on va avoir. La violence émotionnelle ou psychologique, donc pour aller vraiment très très vite, je vais vous donner 1, 2, 3, 4, 5, comme ça des points à retenir. La caractéristique la plus connue dans la violence psychologique, pardon, c'est la manipulation. La manipulation, c'est vraiment l'arme préférée de la personne toxique. La manipulation, il y a plusieurs techniques de manipulation. La technique la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle le gaslighting. Encore une fois, moi, j'ai pas trouvé. Parce que ça a une histoire derrière ce mot, mais la traduction à peu près la plus proche, si vous voulez, c'est l'enfumage. Donc, par exemple, si vous venez, que vous essayez de parler à la personne toxique, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va vous dire, mais t'es folle, ça s'est jamais produit, j'ai jamais fait ça, tu n'as jamais dit ça, donc t'es folle, c'est toi qui imagines les choses, etc. Alors, je fais une petite parenthèse ici, imaginez la femme, elle est dans cette relation. Elle reçoit ça de son partenaire, par exemple, ou de sa famille. Elle essaye d'en parler, hein, et vous avez des personnes qui lui disent, oh, mais tu imagines, non, mais c'est pas ça. Arrête de dire toxique. Oh, non, c'est. Tu vois comme c'est pour ça que je te dis qu'il faut que l'information soit présente. Déjà, quand une femme vient vous parler, peut-être qu'on en parlera après, il faut jamais essayer de lui dire non, ça s'est jamais passé avant de l'écouter premièrement et de toujours la croire. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. On revient. Donc, la violence psychologique, c'est la manipulation, c'est l'isolement de la victime. Et oui, les victimes sont isolées. Et aussi de lui faire croire qu'elle n'a pas sa place dans ce monde, tout le monde te déteste, tout le monde est jaloux de toi. Le contrôle de la victime, contrôler son téléphone, son entourage, où elle va, avec qui elle parle, etc. La menace de se tuer, de se suicider, de la quitter, des menaces constantes. La culpabiliser sur le comportement toxique, donc le gaslighting, ou bien la projection, pardon, c'est une autre technique de manipulation, c'est-à-dire si, par exemple, elle vient dire à la personne toxique, pourquoi tu m'as insulté, elle va lui dire, non, c'est toi qui m'as insulté. Donc, toujours la culpabiliser. Monter son entourage contre elle, surtout ses enfants. Exercer le silence radio, c'est-à-dire la bouder, chaque fois pour rien. Ça, c'est à peu près la violence psychologique. Maintenant, il y a aussi troisième violence. Des fois, il y a des spécialistes qui mettent ce type de violence dans la violence psychologique. C'est la violence verbale. La violence verbale, c'est la moquerie sur le physique, sur le comportement, sur la façon de parler, de se tenir, de s'habiller, etc. L'humiliation, les insultes, les gros mots, les tu n'es rien, etc. Donc ça, c'est la violence verbale. Parler, crier, etc. Ça, c'est la violence verbale. C'est un type de violence qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et il ne faut pas dire que non, c'est juste parce qu'il est énervé, parce qu'il est colérique, etc. C'est une violence. Autre type de violence est la violence spirituelle. Alors, cette violence spirituelle, elle est peut-être mal connue, mais c'est aussi une violence, écoutez bien, obliger une personne à renoncer à ses croyances et à ses pratiques spirituelles ou imposer les nôtres sur cette personne, sur la victime. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre les musulmans, un musulman qui se marie à une chrétienne et il va l'obliger à renoncer à ses croyances chrétiennes en la menaçant, en la battant, etc. Ça, c'est une violence spirituelle. Ou bien imposer sa religion ou ses croyances sur elle. Autre chose, utiliser les religions ou les croyances pour profiter de la victime. Tout ce que vous connaissez comme secte, dans toutes les religions, dans toutes les croyances, etc. Toutes les sectes, etc. Ça, c'est une violence spirituelle.
Donc, vous avez aussi la violence sexuelle sur les enfants ou sur les femmes vulnérables, le viol conjugal dont on parle peu, si ce n'est jamais, parmi la communauté musulmane. Et le viol conjugal, on a quand même un verset dans le Coran qui nous dit, dans le sens du verset, OK, comment pouvez-vous les approcher, c'est-à-dire avoir des relations intimes avec elles, alors qu'auparavant, vous les avez violentées. Et la violence ici, elle est globale. Donc, comment toi, tu peux insulter, humilier, les violences verbales aussi dont je vais parler, elles sont vraiment agressives. C'est regarde-toi, tu deviens de plus en plus grosse, personne ne va te regarder, etc. Et après, il va vouloir vous approcher et il va utiliser le fameux hadith qui dit que si vous vous refusez à votre mari, les anges vont vous maudire. C'est de la violence sexuelle. Et ça passe comme une lettre à la poste, personne n'en parle.
Est-ce que du coup, ce type de violence, donc la violence sexuelle, ce serait pas parce que bah c'est honteux de parler de ça aussi?
Oui, exactement. C'est honteux et elle sait qu'elle n'est pas, elle sera pas bien reçue parce que c'est ton job,
C'est ton devoir de femme, en fait.
ton devoir de femme. Pour elle, elle voit un texte prophétique, donc pour elle, elle est obligée de suivre. Et ça, c'est, on n'en parle pas. J'ai envie d'en parler. Ça, vraiment, je les laisse pour les séances qui sont individuelles ou en groupe. Je
Oui,
n'en ai
c'est
pas en
beaucoup
parler.
plus intime et elles peuvent se
Intime
confier
pour
plus
que,
facilement, quoi.
effectivement, croyez-moi que le côté sexuel joue un rôle très, très, très important dans les relations toxiques. Voilà. La violence économique aussi. Alors, la violence économique, elle a plusieurs formes, encore une fois. La violence financière ou économique, c'est aussi une violence qui est, elle, détectable. Mais le plus important dans ce type de violence, c'est que la victime, quand elle est sous emprise psychologique, va protéger l'abuseur, même avec des preuves sur le nez. Soit qu'elle va vous prouver avec A plus B que vous avez tort, ou qu'elle vous dira de toute façon, j'aime pas aller à la banque, j'aime pas la paperasse, il prend soin de moi, je mange, je m'habille.
On lui trouve des excuses aussi et en fait, ouais.
Donc même si par exemple vous avez le banquier qui appelle, qui voit qu'il y a des transactions un peu louches, je vous donne un petit exemple, tout petit exemple, peut-être qu'on en parlera après, mais par exemple si vous lui dites...
tu m'avais laissé une somme d'argent et ton mari, je parle de la violence conjugale ici, mais ça peut prendre plusieurs formes, est venu la récupérer. Je ne sais pas si tu es au courant. Alors même si elle n'est pas au courant, elle va te dire, oui, je suis au courant, oui. Oui, en fait, moi qui ai demandé ça. Et c'est difficile, c'est très difficile.
C'est aussi une chose que les femmes ne veulent pas faire entrevoir à l'extérieur, ce côté de violence économique.
Oui,
Ce serait dû à quoi, du coup?
moi, d'après moi, je pense que c'est dû aussi à des femmes qui ont tellement été, si vous voulez, maltraitées par le conjoint. Hein. Excusez-moi, je parle beaucoup de relations conjugales, mais ça peut être aussi des amis ou des frères et sœurs, qu'elle se résigne à l'accepter. C'est-à-dire, il va lui dire, tu comprends rien, de toute façon, toi, tu es bête, tu comprends rien. Même si elle a un PhD en finance, hein. Tu comprends rien, tu gères pas bien. Alors pour elle, oui, je comprends rien. Il est plus débrouillard que moi, il gère mieux que moi, il sait ce qu'il fait. Elle le croit en fait. Elle croit ça. Elle croit à. Et c'est du gaslighting. Elle croit à ça, à son mensonge. Ça devient sa réalité. Donc imaginez, vous venez de l'extérieur, vous allez vouloir lui dire attention, je vois qu'il y a des choses qui se trament. C'est de la confrontation, c'est pas bon.
Ouais. Et du coup, elles vont plus se retourner vers la personne qui veut attirer l'attention.
Et c'est ça le problème, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une façon de faire avec les victimes. C'est vrai que c'est pas évident, mais il y a une façon de faire avec les victimes. Et être dans la confrontation et dire mais tu vois pas, mais alors lui dit tu es bête, tu vois pas, tu comprends pas. Et toi après tu viens mais tu vois pas, mais tu comprends pas, mais il y a quelque chose qui cloche, etc. Donc tu vois?
Tu enfonces encore le
Tu
couteau
enfonces.
dans.
Elle veut pas, elle le sait, elle sait très bien que elle est en tort, etc. Dans toutes les sortes de violences, elle le sait, elle le sait très bien, mais elle veut pas se l'admettre. C'est difficile pour elle de se l'admettre. Donc, si toi tu viens comme ça lui dire, mais tu comprends pas, mais je vois qu'il y a quelque chose qui cloche, etc. C'est pas bon.
Mais du coup, ça, ce comportement, c'est un comportement qu'on retrouve pour toute victime de violence, peu importe le type de violence qu'elle subit.
Effectivement, oui.
Ouais, c'est un point commun, ouais, qu'on
C'est ce qu'on
retrouve.
appelle aussi l'emprise. Euh,
C'est
euh,
ça.
elle est plus techniquement appelée le lien traumatique. C'est un terme utilisé par un spécialiste des addictions sexuelles. Et il a trouvé que finalement, être dans une relation toxique, ça a les mêmes effets sur le cerveau que l'addiction à n'importe quelle autre.
C'est ça.
À la drogue, c'est le même comportement de quelqu'un qui est addict, si vous voulez.
Donc du coup, pour elle, elles ne peuvent pas se passer de cette personne.
Exactement ça. D'où l'importance de rendre ça public. Parce que vous savez ce qui aide les femmes qui viennent chez nous, et même les femmes qui me parlent, et même ce qui m'a aidée en fait, c'est quand quelqu'un d'étranger, et ça, j'ai pas aimé. Parce que quand j'ai commencé à mon cheminement, j'ai commencé à comprendre, etc., que j'ai rencontré Dr. Ramani, d'autres coachs, etc., américains, j'ai pas voulu parce que je m'étais dit quoi? Il est en train de parler de mon couple alors que lui n'est pas Et il était en train de décrire le même schéma. Et j'étais en colère parce que les femmes, quand vous êtes en train de décrire le cycle abusif, c'est là où ça commence à tilter. Parce qu'elles croient qu'elles sont les seules à vivre ça, qu'il n'y a personne d'autre qui vit ça. C'est surprenant. Imagine que tu as par exemple un mal de tête, que tu vas chez le médecin qui te dit, tu sais, ce mal de tête, c'est normal de l'avoir pendant tes menstrues, par exemple. Je te donne l'exemple. Et là, tu vas faire du sens à ce mal de tête. Tu vas te dire, ah, d'accord, donc c'est. J'imaginais pas ça, en fait. C'est quelque chose qui se passe partout. Et il y a un traitement à ça.
Alors, du coup, je te remercie pour toutes ces réponses. Donc, si je résume bien, on peut avoir cinq types de violences. En tout cas, les principales, comme tu nous as dit, c'est les violences physiques, psychologiques et émotionnelles, verbales, sexuelles et économiques.
Effectivement.
Ok, super. Et ben là, le fait que tu mentionnes justement les violences économiques, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que justement, j'accompagne des femmes dans la gestion de leurs finances personnelles. Et c'est vrai que parfois, moi, dans certaines situations, j'ai l'impression que mes clientes vivent des violences économiques. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer à quel moment, en fait, on peut se dire que voilà, une personne est en train de vivre une violence économique. Ça m'aiderait moi déjà à pouvoir savoir si ma cliente est réellement dans cette situation ou pas et pas me faire de fausses idées. Et ça pourrait aussi aider nos sisters qui le vivent à savoir si c'est réellement le cas ou pas.
Alors, il faut comprendre le but derrière la violence économique exercée. La violence économique, c'est une forme de contrôle sur la victime aussi. La personne toxique, comme on a dit, va emprisonner la victime en général, dans toutes les violences, mais il va emprisonner la victime. Et ce qu'il va faire dès le début, c'est couper progressivement tout lien extérieur qui puisse lui donner une forme d'indépendance ou d'autonomie. Et cette forme d'indépendance et d'autonomie, elle peut l'aider éventuellement à dire stop à cette relation. Et là, je parle vraiment dans toutes sortes de relations, que l'abuseur soit ton patron. Dans ce cas-là, il va par exemple faire en sorte de t'appeler pour un poste de travail qui est supérieur à tes compétences, c'est-à-dire une occasion à ne pas rater. Mais ça va être un poste de travail qui va vous limiter votre liberté. Plus d'heures de travail. Vous allez emmener plus de travail à la maison. Attention, je ne dis pas que tous les cas où il y a plus d'heures de travail, c'est des patrons toxiques. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va exercer un chantage sur vous. Par exemple, si vous décidez que vous n'arrivez plus à équilibrer votre vie personnelle et professionnelle, que, si vous décidez par exemple d'en parler à votre patron, ben, il va par exemple vous menacer. C'est soit ça, soit. Pas de promotion, soit tu dégages de cette entreprise avec ces mots-là. On a vu aussi d'autres, dans les cas professionnels, on a vu aussi des patrons qui, par exemple, vous donnaient la responsabilité d'une unité à problème, d'un service à problème, par exemple, avec des objectifs inatteignables. Ils vous fixent des objectifs que vous ne pourrez jamais atteindre vu la situation de ce service-là. Si vous ne les atteignez pas, ce qui est tout à fait normal, si vous voulez. Ce qui va se passer, c'est qu'il va tout mettre sur vous. C'est ta faute. Donc, il y a toujours la culpabilité, elle est toujours présente, la peur et la culpabilité. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui va accepter ça, mais la personne, il y a beaucoup de personnes qui sont sensibles, il y a des personnes empathiques et il y a des personnes aussi qui en ont le besoin. Donc, mettez-vous à la place de ces personnes-là. C'est vrai que si je le raconte comme ça, vous allez me dire, oh, mais ça, je lui dirais, je m'en fous, je pars, etc. Mais ce n'est pas tout le monde qui a le choix. Donc, c'est vraiment des personnes qui vont cibler des employés, si vous voulez, qui vont cibler des personnes, des profils. Et aussi dans le cadre du bureau. Mais maintenant, il y a un autre contexte qui est amical, familial ou conjugal, où la personne toxique va s'approprier toutes vos décisions financières. Par exemple, ce que vous allez acheter ou consommer de votre propre argent. Ça, on le connaît plus, surtout dans le domaine conjugal peut-être. C'est-à-dire avoir un contrôle sur vos comptes bancaires. Donc, vous allez signer beaucoup de procurations, par exemple. Il va gérer vos mots de passe pour la banque. Il va gérer vos relations avec la banque. Par exemple, s'il essaie de contacter la banque et que les personnes qui travaillent dans cette banque-là lui disent, je suis désolée, il faut que je parle à l'intéressé. Ce qu'il va faire, c'est vous donner le téléphone et rester à côté de vous et vous dicter ce que vous devez dire. Donc, il y a une forme d'emprise. Elle a beaucoup de visages, la violence économique. Il y a aussi l'utilisation de votre argent. Et c'est le plus commun. S'utiliser, en fait, tout votre argent. Il y a des victimes qui n'ont jamais signé leur carnet de chèques. D'autres qui n'ont jamais vu leur argent, ni virtuellement, ni physiquement. Et si elles veulent par exemple acheter quelque chose, c'est limite si elles doivent demander l'autorisation préalable du conjoint ou du parent, si c'est des adultes, hein, pour acheter ce qu'ils veulent.
Avec leur propre argent.
Leur propre argent, effectivement. Et si vous vous amusez à dire pourquoi, ben ça va être la guerre. Il y a aussi un volet très important, surtout en contexte conjugal. C'est limiter l'accès aux études et limiter l'accès au travail en prétendant qu'il est en train de suivre encore une fois les traditions islamiques. En cela que la femme ne doit pas sortir travailler ou être autonome, ou bien c'est lui l'homme à la maison, tu vois. Ce qu'on trouve beaucoup, malheureusement, dans le contexte islamique. Et c'est là aussi un danger pour la femme, parce que pour lui, si elle arrive à sortir, qu'elle voit d'autres gens, qu'elle ouvre un livre, par exemple, à la bibliothèque, dans l'université, ou bien qu'elle arrive à travailler, elle deviendra autonome financièrement, ce qui menace son emprise sur elle. Et par conséquent, la continuité de l'instabilité dont on a parlé. Il est conscient qu'il suffit de quelqu'un, d'un mot, d'une vidéo, par exemple, que vous regardez pour vous réveiller.
D'accord. Mais du coup, là, je t'interromps, je suis désolée, mais ce que tu dis, ça m'interpelle énormément. Comment, du coup, on peut faire la différence pour savoir est-ce que bah, cet homme veut réellement appliquer les préceptes de l'islam et une personne qui est bah, réellement toxique et qu'elle veut juste avoir une emprise sur la conjointe?
Ben écoute, ce que je t'ai dit là, c'est un red flag, c'est-à-dire c'est un signal d'alerte. Mais ce qu'on a appris, nous, c'est que les signaux d'alerte, il faut les prendre en ensemble. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est peut-être quelqu'un qui, il y a des hommes qui n'aiment pas que leur femme travaille. Ça, c'est pas un problème. Mais s'il y a plusieurs autres signaux d'alerte, de contrôle, si la relation, elle est toxique, parce que généralement, la relation n'est pas toxique que sur un seul domaine. Cohabitation de deux domaines en moins. Donc la violence économique, elle est très très largement, elle partage très très largement le podium avec la violence psychologique. Donc c'est pas que la violence économique, si vous voulez. Et ce qui est très important, tu m'as dit comment on peut différencier. Ce type d'homme, si par exemple il vient dès le début vous dire que moi pour moi la femme reste à la maison et c'est l'homme qui travaille. Et que vous voyez, que vous ressentez avec lui de la sécurité, et que c'est quelqu'un qui est doux avec vous, qui est respectueux, là, il n'y a pas de problème. Mais généralement, les personnes toxiques, ce n'est pas des personnes responsables, premièrement. Deuxièmement, ce qu'on a remarqué des personnes toxiques, et là, je suis obligée de faire référence au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Ok, un homme, je parle des hommes, je ne parle pas d'un homme avec un grand H. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Alors si, par exemple, cette personne est venue vers vous dès le début, vous dire, voilà moi, voilà mes valeurs, voilà ce que j'aime faire, voilà ce que j'aime pas faire, voilà ce que je veux que ma femme soit. Et que cet homme, tout au long de la relation, il suit ce qu'il vous a dit. Alors là, il n'y a pas de souci. Les manipulateurs, c'est des grands, grands, grands menteurs. C'est pas quelqu'un, s'il ne vous laisse pas, par exemple, travailler, il ne va pas vous donner une vie confortable. Est-ce que tu comprends la différence? C'est-à-dire que vous allez vivre la misère, vous allez vivre de la violence psychologique, de la manipulation, des insultes, etc. Et en plus, vous n'avez pas le droit de sortir. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui vous respecte, qui vous aime, qui vous respecte et qui demande, lui, à ce que sa femme reste à la maison. Là, c'est des choix. C'est une personnalité. C'est des choix, mais ça peut être quelqu'un de très doux, de très conscient. Ça n'a aucun problème. Moi, je n'ai pas de problème avec les hommes qui disent dès le début ce qu'ils aiment et qui suivent en fait leurs promesses.
Exactement, parce qu'ils ont été honnêtes de toute façon dès le départ et c'est on sait dans quoi on s'engage.
Exactement. Et ce qu'on dit, le mu'minun inda shurutihim, c'est-à-dire que les croyants doivent s'engager dès le début à respecter les conditions fixées par l'autre. Voilà. Donc, si je peux continuer aussi, il y a d'autres petits aspects. On va bientôt finir, ça ne va pas être long, mais je voulais juste vous donner plusieurs exemples. Mais il y a vraiment plusieurs autres exemples. Parce que la victime comprend en fait. Le but dans tout ça, c'est du contrôle, c'est de la domination. Donc, mais je vais quand même vous donner comme ça plusieurs exemples pour avoir une idée. Donc, un autre exemple, ce serait que on a eu des personnes, des victimes, qui ont été obligées de travailler chez l'abuseur, qu'il soit frère ou père ou mari. Alors là, c'est le contraire. Travailler, pourquoi? Pour pouvoir les contrôler, c'est-à-dire être avec
chaque instant, et ces victimes-là n'étaient pas rémunérées.
Ah ouais.
Oui. C'est-à-dire, elle travaille pour, c'est-à-dire pour ne pas engager un employé, il fait travailler sa femme, sa fille, etc. Et ces victimes-là n'étaient pas rémunérées. Et elles n'avaient pas le droit de se plaindre parce que si elles se plaignaient, c'était « mais tu manges, tu vis bien, pourquoi tu cherches… » Enfin, bien pour lui, c'est-à-dire tu vis le minimum, pourquoi tu cherches à être rémunéré? C'est ça la famille. Tu dois participer. Tu vois, donc c'est vraiment toxique. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un contrôle. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de réciprocité. Il y a aussi l'utilisation des fonds personnels, ça c'est connu, de la victime pour l'intérêt de l'abuseur. Cacher et dissimuler des dettes et des dépenses personnelles à partir toujours des revenus personnels de la victime. Puisqu'il y a limité l'accès aux services financiers dont elle dispose, elle n'aura jamais connaissance de ce qui se passe. L'abuseur va voler l'identité de la victime pour effectuer par exemple des achats, pour souscrire à des abonnements au nom de la victime. Donc, on a eu aussi, je ne sais pas si vous avez vu ça, je pense que c'était sur une émission sur TF1, où la victime, elle a vécu pendant des années avec quelqu'un qui lui a donné une image de lui qui était tout à fait fausse. Il lui a dit, je suis riche, je suis rentier, etc. Et elle s'est, malheureusement, à la fin, jusqu'à ce qu'elle a eu des problèmes, elle a ouvert bien sûr un compte commun. Ça aussi, on l'a vu dans l'organisme, ils aiment ouvrir un compte commun entre les époux. Et à partir de ces comptes communs, lui, il faisait prenait des dettes, etc. Il signait à la place de la femme jusqu'au jour où l'huissier est arrivé pour lui dire « Sortez de votre maison parce que tout est cise. » Je parle au bout de 20 ans. Et elle croyait vraiment que son mari était rentier et qu'il était riche, alors que c'était des dettes.
Subhanallah, comme quoi hein. Donc, tu peux vivre 20 ans avec une personne comme ça et tu découvres pas, en fait.
Oui, ouais, exactement. Il y a aussi emprunter de l'argent à la victime, comme je l'ai dit, et ne jamais lui rendre. Et ça, on le voit beaucoup dans la famille, les frères et les sœurs, parce que les personnes toxiques, c'est aussi des femmes aussi. Hein. Je n'en parle pas, mais oui, c'est des femmes. Donc, c'est une sœur ou un frère qui peut te dire, s'il te plaît, j'ai besoin de ce mois-ci, j'ai besoin de... Allez, de 1 000 euros, c'est vraiment urgent, etc. Tu lui prêtes le mois prochain. Je te le rends le mois prochain. Le mois prochain, tu ne verras bien sûr jamais ton argent. Après, au bout de, je sais pas, de 2 mois, il revient à la charge. S'il te plaît, j'ai besoin. Et quand tu lui dis, mais tu ne m'as pas rendu mon argent, etc., ça va être la crise. Donc, tu n'étais pas une véritable sœur. Donc, tu n'es pas une véritable cousine. Tu vois, donc c'est ça la femme. En fait, tu ne penses qu'à toi, tu es mauvaise, alors qu'on était en train de parler d'argent, d'emprunt. On n'était pas en train de parler de moi. Et c'est ça, c'est très subtil ça. C'est très, très subtil. Attention, je parle de personne. Et comme je l'ai dit, il faut vraiment le voir comme un ensemble. C'est-à-dire, ce frère et cette sœur ont d'autres comportements.
Exactement. C'est pas juste. Il faut pas prendre juste le cas isolé de voilà, on a ce souci-là et la personne se comporte mal. Il y a d'autres aspects à prendre en compte pour pouvoir intégrer ça.
Effectivement. C'est des personnes qui sont déjà invivables et aussi être au crochet de la victime. On a vu beaucoup de victimes qui travaillaient, qui subvenaient aux besoins de leurs parents et de leurs frères et sœurs, alors que par exemple les parents, ils prenaient de l'argent de la fille et ils lui donnaient par exemple à l'autre fille ou bien à l'autre frère, etc. Et c'était toujours c'est toi la responsable, tu es obligée de subvenir à nos besoins, etc. En plus, c'est très difficile quand tu es sous la joute de parents qui utilisent le côté islam. C'est très difficile de faire le distinguo entre des parents qui sont dans le besoin et des parents qui sont bienveillants et des parents qui sont toxiques. C'est très, très difficile. Donc, comme je l'ai dit, il faut toujours le prendre dans un contexte plus global. Je ne parle pas d'un cas, je ne parle pas d'une fois. Je parle de, comme j'ai dit, c'est cyclique. C'est vraiment cyclique. C'est-à-dire toujours les problèmes. Toujours, il y a toujours des problèmes. Ça revient, puis vous vous réconciliez. Après, toujours c'est le même problème. Après, ça revient. Tu vois, tu es toujours dans ce problème-là. Et tu ne peux pas communiquer. C'est impossible de communiquer parce que tu vas passer de la position de victime à la position d'agresseur.
D'accord. Bon, bah, du coup, et il y avait d'autres exemples pour tout ce qui était violence économique? Parce que là, ouais, tout ce que tu donnes... Bah, ça fait réfléchir quand même, hein.
En fait, la violence économique, j'ai donné les plus grands exemples. En fait, ça dépend du type de relation. Je pourrais vous donner dans le domaine professionnel plusieurs types de violences économiques. Je pourrais vous donner la famille, par exemple, plusieurs types de violences économiques. Dans l'amical, plusieurs types de violences économiques. C'est, en fait, il faut juste le maître mot, c'est de ressentir du contrôle. Vous n'avez plus accès à votre argent, à vos fonds. Bien sûr, on parle aussi de travail, puisque ça génère de l'argent. Difficile d'avoir accès à votre travail quand vous voulez, c'est difficile d'avoir accès à vos fonds personnels. Donc, si vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous voler carrément, quelqu'un qui est en train de profiter de vous, quelqu'un qui est en train de contrôler votre argent, je sais qu'on a eu... Je ne peux pas aller trop dans les détails parce que c'est très confidentiel ce qu'on fait, mais c'est un cas qui m'a vraiment émue et ça a pris beaucoup, ça a pris à peu près un mois pour que je puisse régler ce problème. Et elle a eu un très, très gros problème avec PayPal. L'ex-mari, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a ouvert un compte PayPal avec ben, le compte de sa femme, son adresse courriel, son mot de passe à lui. Et aller dire à PayPal que non, ça, c'est pas mon adresse courriel et je ne connais pas mon mot de passe. C'était tout un tralala juridique pour qu'on puisse lui donner accès à son compte PayPal ou bien le supprimer. Parce que ça a été très difficile pour eux à PayPal de non, je suis désolée, on a votre nom, comment ça devrait être votre. Comment se fait-il que vous ne connaissez pas votre adresse courriel? Tu vois? Et ce qu'on a après, on a compris que finalement, il était en train de faire des achats avec son compte parce qu'elle travaillait. La pauvre, elle était femme de ménage. Et elle s'est jamais rendue compte. Elle venait d'un pays très pauvre. Et elle ne savait pas ce que c'était qu'une banque, un compte, que de l'argent virtuel, les virements, etc. Donc, elle lui laissait tout. Elle savait rien. D'ailleurs, c'est lui ici. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous en France, mais par exemple, un autre cas de violence économique, c'est l'accès au compte personnel des taxes et impôts. Ici, c'est très sécurisé et chaque personne a son compte personnel.
Ah oui, ici aussi c'est pareil.
Voilà. Donc, même le conjoint n'a pas le droit, c'est-à-dire même si le conjoint essaye d'appeler, par exemple, il ne lui donne aucune information.
C'est ça, non, non, ouais. Exactement. Il faut ses propres identifiants et vont s'assurer que c'est bien la personne qui est au bout du fil, quoi.
Voilà. Et ici, en fait, ton compte, ici au Canada, le compte des taxes, en fait, ton identité de taxe, je ne sais pas si c'est tax identity, j'essaie de la traduire, elle est primordiale pour tout. Ton identité. Donc, tu peux pas avancer sans avoir ton identité. Imaginez que c'est la même personne n'avait pas. C'était son nom, son courriel, le courriel de la personne toxique, etc. Elle n'avait pas accès à son compte. Et il fallait aussi prouver que c'était elle.
Ouais, donc là, c'est limite, c'était une usurpation d'identité, quoi.
C'est une usurpation, c'est une fraude passible de prison, effectivement. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas. C'est ce que j'ai essayé de... Mais c'est difficile aussi. C'est très difficile à prouver parce que quand la victime est dans une relation toxique, comme je te l'ai dit dès le début, elle le protège. C'est difficile.
Et du coup, dans une situation, par exemple, où la femme ne travaille pas, donc parce que là on voyait des situations où voilà il y a le contrôle de l'argent de la personne, etc. Mais là, si la femme n'a pas de revenus et que c'est le mari qui a les revenus et du coup c'est lui qui est censé prendre soin d'elle, mais que voilà il fait en fonction de son bon vouloir. Ça veut dire que bah la femme, vu qu'elle a pas de revenus et que c'est le mari qui doit prendre soin d'elle, eh ben, c'est aujourd'hui je te donne, demain je te donne pas, tu as envie de sortir avec des amis, bah si j'ai pas envie, je te donne pas, tu vas pas à ton resto parce que c'est en fonction de mon humeur, de mon envie. Et du coup, est-ce que ce genre de situation, enfin ce genre de cas peut s'apparenter à de la violence économique ou est-ce que ça n'a rien à voir du tout?
En fait, oui, je te dirais même plus, hein, parce que tu m'as dit que sans bon vouloir, les personnes. En fait, il y a des degrés aussi de manipulation et de perversion narcissique. Les traits sont les mêmes, mais il y a des degrés. Donc oui, il y a des personnes, parce qu'il ne faut pas dire, hein, on n'a pas le temps de tout développer sur ça, mais il faut pas se dire que les femmes qui sont dans des relations toxiques, c'est des femmes soumises. C'est des femmes qui ont une vie sociale, des fois, même si elles sont isolées. Après, on pourra parler de ça, mais elles ont une vie sociale, c'est-à-dire qui ont des amis, qui sortent dans les mariages, qui font des voyages, etc. Mais elle est, c'est-à-dire télécommandée, sous contrôle. Et là, il la laisse être comme ça quand il est sûr qu'elle est sous emprise. Quand c'est comme de la pâte à modeler, quand il est sûr qu'elle est maniable. C'est-à-dire, même si elle est à des milliers de kilomètres de lui, il sait que, par exemple, lui a donné des directives à faire, il sait qu'elle ne le fera pas, même s'il n'est pas là. Donc, tu me disais, la femme, par exemple, qui ne travaille pas, etc. Eh bien, les pervers narcissiques, les manipulateurs aussi, rentrent dans les détails des détails. Je vous parle de sous-vêtements, mesdames, de sous-vêtements. C'est-à-dire que c'est lui qui va vous acheter ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Si par exemple vous dites que je veux m'acheter des vêtements, etc., il va vous dire pourquoi tu veux t'acheter, pourquoi tu es en train de gaspiller notre argent. Lui, il s'achète, lui, il est libre, il s'achète ce qu'il veut, mais vous, c'est limite si vous avez vraiment le strict minimum. Donc oui. Si vous ressentez une domination, si vous ressentez qu'il y a vraiment un contrôle que vous ne pouvez pas, moi je attendez, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas toxiques, mais qui ont vécu dans des environnements toxiques et qui ont acquis, si vous voulez, des réflexes toxiques. Pas la même chose. Ces personnes-là, si vous arrivez à bien communiquer avec eux, si par exemple, au moindre petit moment, c'est-à-dire s'ils voient que, par exemple, leur femme, on parle de conjoint, s'ils voient que leur femme tombe malade ou que quelque chose de grave se passe, ils vont changer du tout au tout parce qu'ils vont prendre conscience. Là, la différence entre la personne toxique et la personne non toxique, c'est la prise de conscience. La personne toxique se fout de vos désirs, de ce que vous voulez, de votre bonheur. Pour lui, c'est lui. Donc, par exemple, si, parce que les pervers narcissiques construisent une image bien lisse dans la société. Si, par exemple, vous allez partir à un mariage et que ce mariage engage sa réputation, bien sûr qu'il va vous acheter la belle robe et qu'il va vous acheter un beau cadeau pour l'emmener au mariage, parce que c'est important pour lui. Mais si par exemple c'est vous, vous avez besoin de quelque chose, il va vous dire, mais pourquoi tu choisis ce shampoing-là et pas ce shampoing-là? Tu vois? On a eu des trucs comme ça. Donc c'est vraiment, c'est des femmes qui sont vraiment télécommandées. Elles n'ont pas, le champ d'action, il est vraiment très limité.
Ok. Donc du coup, il faudrait quand même réussir à faire la différence entre quelqu'un qui est juste radin, pas dépensier, économe, et quelqu'un qui a derrière en fait ses refus, une sorte de manipulation, ou en tout cas, il regarde que son intérêt.
Oui, parce que quelqu'un radin, c'est un défaut très grave. C'est un défaut très, très grave. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, mais radin, il est radin tout au long de votre relation. La personne toxique, non. Et les femmes restent avec les personnes toxiques parce qu'il y a des moments magnifiques. La personne toxique, quand il voit que vous commencez à lui échapper, il va vous acheter le meilleur cadeau dont vous rêviez en tout cas. Tu vois? Donc c'est vraiment fluctuant. La relation toxique, elle est fluctuante. C'est pour ça qu'il y a une forme d'addiction qui se crée, parce que vous allez tout le temps être accroché au bon moment. Oui, mais quand même, il m'a offert ce voyage-là. Oui, quand même, il m'a offert économiquement. Il m'a offert cette parure-là. Donc, non, il a raison, il a peut-être raison. Je dépense beaucoup. Tu vois? La personne radine, elle est radine tout au long, c'est-à-dire elle est radine sur tout. Il ne va pas changer du jour au lendemain. La personne toxique, elle jauge en fait elle jauge votre addiction à lui. Il vous donne petit à petit. C'est comme si c'était un appât. Si vous êtes, c'est bon, si vous êtes sous en emprise, il vous donnera pas beaucoup. C'est pour ça que vous voyez par exemple des femmes qui vivent mal dans leur relation, et après quand elle décide de quitter l'homme, il va lui dire je vais changer, je te jure, voilà, je t'ouvre un compte à toi, je vais te donner plus d'argent, etc. Et quand elle revient, c'est niet. Tu comprends? Donc vraiment, il faut le voir. Premièrement, il faut voir les signaux d'alerte en ensemble, c'est très important. Parce que s'il est que radin, c'est-à-dire c'est un défaut de la radinerie, mais la personne toxique, elle est radine. Une des définitions de la personne toxique, c'est qu'elle est vraiment très proche de son bien-être à elle. Elle est radine dans le sens où elle dépense beaucoup pour elle-même, pas pour les autres. Ce n'est jamais de la générosité en tout cas. C'est toujours des investissements sur les autres. C'est-à-dire qu'elle ne vous donne jamais de l'argent pour rien, même pour les enfants. Elle ne donne jamais de l'argent aux enfants parce qu'ils veulent que leurs enfants soient épanouis, qu'ils mangent bien à leur faim, etc. Mais c'est toujours qu'est-ce qu'ils vont dire sur nous? Qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est très important pour lui. Ou elle, d'ailleurs. Hein. Donc, oui, voilà. Donc, il faut vraiment voir ça. Il faut vraiment dézoomer un peu, voir tous les comportements suspects. C'est pour ça que je conseille de noter, de tenir un journal. Et voir aussi, essayer de détecter le cycle. C'est très important. C'est pratiquement impossible quand vous êtes dans la relation de détecter le cycle. Mais la personne qui est autour, elle peut détecter des cycles.
Ouais, bah du coup, le fait que tu parles des gens autour, enfin, en tant que nous proches d'une personne qui vit une relation toxique, comment on doit agir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir justement venir en aide à la victime?
Alors, en tant que proche, c'est très très difficile, c'est très compliqué de voir une personne qu'on aime, qu'elle soit ta fille, ta sœur, ta mère, ton ami, ou même ton frère ou ton père. C'est très difficile de voir une personne s'enliser petit à petit dans un piège infernal sans que tu puisses l'aider. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que dès le début de la relation, il va y avoir cette sorte de leitmotiv qui se répète aux oreilles de la victime. C'est toi et moi contre le monde entier, ou bien je serai toujours là pour toi, je suis la seule personne qui te comprenne, je suis là, je serai toujours là, je suis la seule personne qui t'aime vraiment, etc. Donc l'abuseur va ancrer petit à petit dans la tête de la victime que lui, c'est un cadeau du ciel envoyé à la victime pour combler tous les vides de sa vie. Et ce qui va se passer, c'est que l'abuseur va étudier l'environnement direct et indirect de la victime. L'environnement direct, c'est-à-dire les personnes qu'elle côtoie quotidiennement, les frères et sœurs, les parents, les meilleurs amis. Et s'il voit par exemple que la victime est entourée, parce que généralement, comme je te l'ai dit la dernière fois, on sait que plusieurs personnes toxiques dans le pervers narcissique vulnérable, parce qu'il y a plusieurs types de pervers narcissiques, de pervers narcissiques, donc le narcissique vulnérable, ou cachés, c'est des personnes qui cherchent des personnes extraverties. C'est des personnes qui cherchent des personnes solaires, qui ont un réseau social important, qui sont très appréciées. Et le propre de l'extraverti, c'est ça. Et ce qui leur plaît à eux, les vulnérables, c'est de s'agripper à cette personne pour profiter de son réseau, de ses connaissances, pour se donner de l'importance, puisqu'il n'en a le vulnérable n'en a pas vraiment. Le but, c'est aussi d'isoler la victime, comme je t'ai dit, de son cercle social et familial. Et c'est pour ça que les proches sont les premiers à remarquer que la victime change peu à peu et qu'elle s'éloigne. C'est que derrière, en coulisses, il y a beaucoup de choses qui se trament. Vous allez avoir devant vous un partenaire qui rigole, par exemple, avec la victime, qui est très sympathique en public, mais son véritable visage, il le montre uniquement à la victime. Et il va peu à peu laver le cerveau de la victime, toujours de façon sournoise, quitte à instaurer un doute, une méfiance par rapport aux proches, surtout ceux qui estiment avoir le pouvoir dissuasif. Lui, il estime que ses proches-là ont un pouvoir dissuasif sur la victime. Par exemple, une meilleure amie. Si, par exemple, toi, tu racontes à cet abuseur dès le début de votre relation, ça, c'est ma meilleure amie, c'est mon amie d'enfance, et ses conseils, je suis toujours ses conseils, c'est quelqu'un qui est très sensé, etc. Il va se dire, ah, cette fille-là, cette meilleure amie-là, c'est un problème pour moi, parce qu'elle va détecter quelque chose, et puisque la victime l'écoute, ben, elle peut m'échapper. Voilà. Et je donne toujours l'exemple de, ils sont jaloux de nous. Il va dire à la victime, ils sont jaloux de nous. Parce que ton amie, regarde, elle est seule. Elle est jalouse de toi. Parce que toi, tu es en couple, tu es heureuse. Ils sont jaloux de ton bonheur. Il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup d'abuseurs qui, par exemple, disent, ah, tu sais, quand on était hier soir chez ta tante, par exemple, j'ai remarqué que ta cousine essayait de me draguer, si vous êtes proche de votre cousine.
Ouais, vraiment, c'est monter la tête contre son entourage.
C'est pour ça que je te dis que c'est très compliqué. Donc, avant que vous commenciez à comprendre que votre sœur ou que votre amie est dans une relation toxique, ça sera trop tard, parce qu'elle est déjà endoctrinée contre vous. Alors, pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant à savoir, c'est qu'il y a une approche bien particulière quand vous vous adressez à quelqu'un qui est dans une relation toxique. Si vous avez remarqué des choses chez la personne toxique, que vous voulez rapporter ça à votre ami ou bien à votre sœur, il ne faut jamais aller, comme je t'ai dit, dans la confrontation. Il ne faut jamais dire, tu sais, j'ai remarqué comment il te traitait, je n'ai pas aimé ça. Pourquoi tu le laisses faire ça? Non, ça, c'est pas bien. Vous allez la braquer parce qu'au fond d'elle-même, elle sait ce qui se passe. Et elle sait que ce qu'elle fait est mal. Mais elle ne peut tout simplement pas agir. Dû à l'emprise, dû à la peur, dû à la culpabilité. Alors, imaginez qu'elle est dans un bocal fermé avec cette personne manipulatrice ou toxique. Et donc, tout ce que vous direz peut être retourné contre vous, sachez-le. Parce qu'elle va aller lui dire.
C'est ça aussi, ouais.
Et elle va aller lui dire, c'est sûr. Quand elle est endoctrinée, elle va aller lui dire. Parce que, bon, imaginez que. Il va la voir, par exemple, un peu triste, etc. Il va essayer de comprendre pourquoi. Et là, il va jouer de sa manipulation. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Dis-moi, etc. Et ben, elle va lui dire. Elle va dire, c'est mon ami qui m'a dit ça sur toi. Et là, il va redoubler d'efforts contre vous. Donc, c'est une stratégie perdante. Au contraire, là, il faut être très intelligent. Je parle surtout aux mères. J'ai eu une mère qui est venue me parler de sa fille, et c'était vraiment difficile à écouter. Je voyais sa détresse et je la comprends tellement, sa détresse, je comprends. Mais si vous commencez à vouloir à tout prix l'aider, comme elle a dit, quitte à la perdre, là c'est une erreur, parce que vous êtes en train de la pousser encore plus vers lui. La meilleure des solutions en tant que proche, c'est d'être à l'écoute de la victime qui est dans une relation toxique. C'est que si cette personne vient vers vous un jour et qu'elle vous raconte quelque chose par inadvertance, ça peut arriver. Il ne faut pas dire, mais comment tu as fait pour rester jusqu'à maintenant? Ou pourquoi tu n'es pas partie avant? Ou mais pourquoi tu reviens vers lui? Tu es folle? Non. Il faut dire, j'imagine que ce que tu vis est vraiment pénible à vivre. Je te comprends et je ressens ta peine. Je ressens ta peur. Et je comprends pourquoi tu n'arrives pas à le quitter. Je veux juste que tu saches que je suis là et que je serai toujours là pour toi, que tu restes ou que tu partes. Et le jour où tu voudras partir, je serai là pour t'aider. Et si tu décides de rester, je serai là pour t'écouter. C'est tout.
D'accord. Donc vraiment être dans l'empathie absolue, quoi.
C'est exactement comme a fait notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je le redis, que la paix soit sur lui, quand il a vu quelqu'un venir vers lui, quelqu'un de saoul, quelqu'un qui avait trop bu. Et les compagnons étaient très en colère parce qu'il est rentré dans la mosquée et qu'il était saoul. Ils ont voulu même l'écarter ou quelque chose comme ça. Et le prophète a dit non, laissez-le. Et c'est parce que le prophète lui a bien parlé que cette personne a arrêté de boire, qu'il est revenu vers la prière, etc. Donc, imaginez la victime vraiment comme quelqu'un sous une addiction. Et je vais vous dire, il y a plusieurs victimes, il y a plusieurs survivants en fait si tu veux, qui sont sortis de cette relation en suivant, je parle aux États-Unis, hein, des personnes aux États-Unis, en suivant le programme des alcooliques anonymes à 12 étapes. En fait, ils ont un programme à 12 étapes pour arrêter de boire.
Ah ouais, quand même. Donc ça veut dire que c'est vraiment, oui, c'est vraiment considéré comme une addiction, du coup.
Exactement. C'est pour ça que j'ai envie que les femmes le sachent. Quand tu n'as pas l'information, tu ne peux pas agir. Et beaucoup de thérapeutes n'ont pas cette information. Beaucoup de thérapeutes ne savent pas quoi faire face à une victime comme ça. Parce que moi, je te parle parce que j'ai quand même un vécu. C'est pour ça que pour moi, une femme qui me vient, je commence un travail avec elle et elle revient vers l'abuseur, moi, ça ne me choque pas du tout. Tu vois? Ça ne me choque pas du tout. On sait qu'en général, la femme quitte la relation après la septième tentative. La septième tentative.
Ah ouais, quand même, c'est pas mal là. Donc, il faut de la patience quand on veut accompagner, aider, quand on est proche, en fait, il faut vraiment mettre cette patience en pratique.
Oui. Les proches, c'est encore plus difficile parce qu'il y a l'élément émotionnel, tu vois. Quand tu es une mère, que tu vois ta fille comme ça, tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas, c'est impossible. Je te dis que c'est très compliqué. Quand tu es c'est ta meilleure amie, que c'est ta sœur, tu ne peux pas réfléchir. Tu as juste envie de lui dire, réveille-toi, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Ça ne marche pas comme ça.
Mais, par rapport à ce que tu as dit, parce que tu dis que si la personne, quand la personne vient nous voir pour nous rapporter un élément, c'est la façon dont on doit réagir. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'on attende que ce soit elle qui vienne vers nous. Nous, on ne peut pas faire le premier pas.
Toujours. Vous pouvez faire, c'est par exemple, si dans un contexte, par exemple, tu peux lui dire, oh, tu sais, j'ai lu un livre très intéressant ben, sur ce sujet, par exemple, et tu parles pas d'elle. Et oh, je reviens encore une fois, subhanallah, je reviens à notre tradition prophétique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, ne donnait jamais des conseils directs. Il disait toujours, ouais, mais belle ou qawmin. Il y a des gens qui font ça et c'est mal. Tu vois, tu parles jamais d'elle. Parce que la victime, cette victime-là, je suis sûre que s'il y a dans votre entourage des victimes de relations toxiques, ce qui est bizarre, c'est qu'elles sont très lucides quand il s'agit des autres. La même victime, elle va te dire non, mais elle est folle, elle se fait abuser comme ça. Et elle n'est pas consciente de ce qui lui arrive à elle. Donc, ce que tu dois faire, toi, c'est la même chose. Tu dois, par exemple, tiens, j'ai lu ce livre, j'ai entendu parler de quelqu'un qui s'est fait comme ça, etc. Le but, c'est juste comme ce qu'on fait, nous, on lui donne jamais de réponse comme ça directe à ses questions. Est-ce que mon mari est narcissique? Déjà, ça aide pas. Est-ce que je dois partir ou aller? Je ne te donnerai jamais cette réponse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de chercher le bouton, tu vois, le bouton déclencheur, et juste appuyer sur le bouton, parce que c'est toi qui dois réfléchir.
Et ça, en fait, c'est éveiller sa conscience pour qu'elle se pose les bonnes questions et qu'elle prenne conscience que bah, finalement, elle aussi est dans ce type de relation.
Effectivement, c'est exactement ça. Sur le simple fait de constater que finalement, tu contredis, si tu veux, ce que lui dit, par exemple, lui dit, tu sais, ton amie, celle-là, elle est jalouse de toi. Quand tu lui dis, je t'accepte. J'ai eu, par exemple, une maman d'un certain âge qui vivait, qui a vécu donc, toute sa vie dans une relation toxique, une relation très, 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 très dark, et qui m'a dit... Tu sais ce qu'il lui disait, la personne toxique, le vieil homme, il lui disait, toi, si par exemple tu décides de partir à ton âge, personne ne voudra de toi, tu vas finir dans un asile de fous ou bien dans une maison de retraite. Même tes enfants ne voudront pas de toi. C'était un doute chez elle. Elle doutait de ça. Elle doutait de ses enfants. Elle croyait que véritablement, si elle décidait de partir, elle serait à la rue. Et puis quand elle a trouvé que finalement il y a, alhamdoulilah, quand même de belles initiatives ici, en tout cas, qu'il y a vraiment un accompagnement, que par exemple ce qu'on fait, nous, même des vieilles dames qui nous viennent, on leur cherche des maisons, on leur cherche des programmes, etc. Donc elles sont insérées petit à petit, même à 70 ans, tu vois. Donc elle s'est dit, mais je ne savais pas, mais je pensais que j'allais finir dans la rue. Je serais partie quand j'étais jeune. Donc, si tu contredis ce que tu lui dis et ce qu'il lui dit, lui, et que tu lui dis que tu l'acceptes malgré tous ses choix, parce qu'elle est, crois-moi, elle est pas fière de ses choix. Tu les pointes des doigts encore, tu vois, tu vas la braquer.
Et là, par rapport à l'exemple que tu as donné, si par exemple tu as justement une personne qui veut se séparer de son mari et que celui-ci bah, utilise par exemple les enfants en disant bah, si tu pars, tu pars, mais en tout cas, les enfants, tu les reverras plus. Tu vois, ce genre de choses. Est-ce que c'est des genres de choses qu'on peut entendre justement d'une personne toxique ou bah, finalement, si tu pars de toute façon, comme tu disais là, c'était l'exemple, tu finiras dans un asile, mais bah, quelqu'un qui est dépendant financièrement de son mari. Pareil, si on utilise cet argument, bah, si tu pars, de toute façon, tu ne pourras pas t'en sortir financièrement. Donc, il y a des femmes qui vont rester dans une relation qui n'est pas forcément bonne pour elles. Après, je ne sais pas si c'est réellement toxique, mais qui ne sont pas bonnes pour elles. Et à cause du financier, n'osent pas quitter la relation. Est-ce qu'on peut voilà, se dire que, bah, y a peut-être des petites choses à voir par rapport à une relation toxique?
Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment classique. Regarde, il y a plusieurs femmes qui ne vont pas quitter leur relation. On sait que sur 100% des femmes, on sait que uniquement 42%, je pense que c'était les estimations de l'année dernière, 42% des femmes vont quitter la relation toxique. C'est tout. Les autres, c'est le poids des traditions, le poids de la religion, les financiers, les enfants, je ne peux pas, elle n'est pas sûre d'elle-même. J'ai eu une personne qui me disait, en fait, j'ai plus confiance en moi. J'ai plus confiance en moi. Il a tout détruit. Je sais qu'il a tout détruit. Je sais qu'il est toxique. Je sais que je ne vis pas bien. Mais j'ai tellement peur de cet inconnu-là que je n'ai pas envie de m'ajouter une source de stress. Tu vois comment elle le voit? C'est pour ça que je te dis qu'on ne dit jamais à une personne quitte la relation, ne quitte pas la relation. L'aliénation parentale, c'est-à-dire de dire que tu ne verras jamais tes enfants, c'est une menace réelle. C'est une menace qui s'exerce beaucoup dans les tribunaux. On sait que plusieurs femmes ont eu ces problèmes-là. C'est pas que la personne toxique va garder les enfants chez lui parce qu'il n'en a pas vraiment besoin, mais par exemple, on a eu beaucoup de signalements de personnes toxiques, de signalements de maltraitance des ex, des femmes, des victimes envers leurs enfants, de faux signalements. La menace contre les enfants pour en fait les menacer. Si tu me contredis devant la police, je te ferai ça et ça et ça, etc. Et les enfants sont en peur. Donc c'est vraiment catastrophique, catastrophique ce qui se passe dans les relations toxiques. Mais si tu veux, si j'ai quelque chose à leur dire, c'est que quand on apprend les stratégies des personnes toxiques, pas facile, je vais pas te dire que c'est facile, mais tu peux largement t'en sortir. C'est pas la fin du monde. Le truc, c'est que la personne toxique va te brosser un tableau noir sur ton avenir sans lui. Donc, on va décortiquer ce tableau petit à petit. La confiance en toi, le financier, les enfants, comment faire, comment ne pas faire, où aller. C'est comme ça. C'est un travail de longue haleine, mais au bout, tu peux y arriver si tu as de la volonté. C'est pour ça que moi, par exemple, je ne travaille jamais avec une femme qui n'est pas, qui n'est pas, si tu veux, prête à 100%. Il faut que la volonté, ce qu'il faut faire, c'est que la femme, il faut qu'elle ait un strong why, c'est-à-dire un pourquoi fort. Un pourquoi, il est tellement fort le pourquoi qu'elle est prête à tout subir. C'est ça passe ou ça casse. Alors là, elle peut arriver à des résultats. Si elle doute, elle n'est pas encore prête. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire.
Parce que ça remettrait en cause tout le travail de toute façon à un moment donné que vous aurez pu mettre en place. Après, tu disais que bah, il faut au moins 7 tentatives pour pouvoir vraiment se séparer de la personne toxique. Donc, même si la personne est prête à 100%, qu'elle a ce strong why et que bah, des fois elle repart et après elle revient, ça pose pas de problème là.
Non, ça ne pose pas de problème. Parce qu'elle reviendra, il y a ce qu'on appelle un lien traumatique. C'est très long ce sujet. Le lien traumatique, c'est, comme je te l'ai dit, il a été découvert par un addictologue spécialiste des addictions sexuelles. C'est exactement le lien que tu entretiens avec une addiction. Ce lien traumatique, il est créé parce que il y a des périodes, de bonnes périodes et de mauvaises périodes. Donc la victime va s'accrocher à cette bonne période, au début, au love bombing phase. Tu vois, les thérapeutes disent que c'est le syndrome de Stockholm. Ce n'est pas vraiment le syndrome de Stockholm. C'est des choses qui vont peu à peu venir en Europe, Inch'Allah, je l'espère. C'est une addiction. Et elle va s'imaginer une personne que la personne toxique n'est pas. Même s'il lui prouve par A plus B, la maltraiter, abuser d'elle, la battre, elle verra toujours le prince charmant du début, par exemple. Elle rentre dans une forme de négation de la réalité. Elle se gaslight, si tu veux, elle-même. Et c'est pour ça qu'elle revient. Parce que on parlait du côté sexuel, on sait que le côté sexuel peut être une façon de retenir la victime, des fois, parce que des fois, c'est le seul moyen où elle ressent de la douceur. Et donc, on sait que, par exemple, si elle le quitte, et généralement, il va l'isoler. Si à n'importe quel problème, elle va essayer de se dire, il n'est pas là. J'ai besoin de lui, j'ai besoin. J'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient, j'ai besoin de lui comme de l'eau. Comme de l'eau. C'est vraiment une addiction. C'est comme si tu donnais de la drogue, tu enlevais de la drogue comme ça un drogué. Ça frise vers la maladie quand le lien n'est pas rompu. Donc, si elle a un strong why, on peut rompre. le lien traumatique. Elle peut le faire avec un thérapeute, encore une fois, spécialisé en traumatisme, pas n'importe quel thérapeute, ou bien avec un coach spécialisé en relations toxiques. On va rompre le lien toxique, c'est comme si tu avais comme ça un boudin, on va découper, découper partie par partie, on va tout, en fait, tout ouvrir. Une sorte d'exercice d'imagination. Et si cette personne mourait, par exemple, si cette personne toxique mourait et que tu ne quittais pas la relation, et on va créer des scénarios quand tu, par exemple, tu vas à la banque sans lui, tu éduques les enfants sans lui. Parce que le plus important, c'est d'avoir une conception de l'inconnu. Si elle n'a pas, s'il n'a pas une idée de l'inconnu, elle va avoir peur. Mais si, par exemple, on va l'aider à vraiment ressentir cet inconnu, ressentir ce qu'elle va être sans cette personne, et elle va être prête dans tous les côtés de sa vie à vivre sans lui, ça, ça va l'aider. En plus d'exercices, bien sûr, thérapeutiques, elle doit, si c'est, ça dépend en fait de l'intensité du lien traumatique, ça dépend aussi de l'intensité du stress post-traumatique. Donc, mais le plus important, c'est de ne pas la juger si elle revient. C'est tout. C'est de l'accompagner. Je t'accompagne dans tous tes choix.
Bon, ma sweet sister, on va devoir faire une pause. Je sais que tu étais à fond dedans, mais il est important que tu puisses digérer toutes ces informations. Je te retrouve dans 2 semaines, Inch'Allah, pour la fin de cet épisode. À bientôt!